La stratégie en psychothérapie par Madaline Adé. Traduit par Anaïs Schlinger. Ce livre est dédié à mon enfant Max. Remerciements. Ce qui suit est né de l'amour de ma profession et en tant que symbole de reconnaissance pour les années consacrées à un contrat honorifique au sein du NHS. Je suis reconnaissante à ma famille, passée et présente, d'avoir toujours été ce qu'ils sont. Je remercie tout particulièrement Kamalika Mitra. Cette traduction n'aurait pas été possible sans la volonté et le dévouement d'Anaïs Schlinger, qui a eu foi en ce projet et l'a rendu accessible au public français. Je suis reconnaissante. Sommaire. Chapitre 1, introduction, page 5. Chapitre 2, exercice être soi-même, validate, page 12. Chapitre 3, gérer le changement, l'anxiété et la dépression, page 57. Chapitre 4, la thérapie de couple et la recherche de solutions grâce aux rencontres thérapeutiques, page 99. Chapitre 5, évaluation du risque, accès et communication dans les professions de la psychothérapie et du conseil, page 108. Chapitre 6, que se passe-t-il en thérapie dans des circonstances socio-économiques et politiques extraordinaires, le cas du Brexit, page 124. Chapitre 7, créer un bog d'un thérapeute, l'apprentissage reste avec moi. Page 136. Chapitre 8. La pratique réflexive en psychothérapie et conseil. Page 142. Chapitre 1. Introduction. Un chapitre de Change and Innovation. Challenge for the NHS. Par Turil, 1993, pose une question intéressante. Administrateur, gestionnaire ou leader? Turil, 1993, page 43. Si elle n'est pas soigneusement réfléchie et située dans le contexte du NHS, une réponse immédiate à une telle question pourrait être une contre-question cherchant une clarification. Qu'est-ce que cela signifie? N'est-il pas clair qu'il existe trois rôles professionnels distincts? Ou bien, on pourrait faire valoir qu'en posant une telle question, on implique qu'il existe des situations où les termes sont liés entre eux et ne sont pas suffisamment distincts au niveau théorique et pratique. En posant cette question, Turil, 1993, l'auteur du monographe avait l'intention de souligner l'importance de tous ces termes, rôle professionnel, et plus important encore, de montrer comment, tant dans la pratique que dans leur définition, les deux premiers termes sont souvent utilisés de manière interchangeable. Et si c'était le cas, quelles sont les implications que nous devrions garder à l'esprit lors de l'élaboration des critères désirés et essentiels liés aux spécifications des postes de direction au sein du NHS? Turil, 1993, défend encore sa question en disant « Ce n'est pas de la simple pédanterie », ce qui signifie que le leadership est difficile à définir et peut-être qu'en analysant de plus près et plus distinctement les pratiques de leadership et leur lien avec le changement et l'innovation, donc le développement, nous pouvons nous faire une idée plus claire de la façon dont tous ces termes peuvent être et sont appliqués dans le contexte du NHS. Le NHS est-il administré? Le NHS emploie-t-il des gestionnaires? Si oui, cela signifie-t-il qu'il emploie implicitement des dirigeants? L'auteur affirme en outre que les deux derniers termes, gestionnaire et dirigeant, sont entrelacés et qu'ils sont très difficiles de les comprendre séparément. Là encore, cette affirmation peut être défendue contre la pédanterie, car Turil fait référence à la difficulté de séparer la façon dont les deux termes sont compris, mais peut-être ne serait-il pas si difficile à séparer s'il existait une compréhension claire du type d'activité menée par les différents individus employés dans ces rôles. L'argument final de Turil est que les caractéristiques personnelles et les attitudes déployées dans un rôle sont ce que signifie finalement le leadership. Turil insiste sur l'exécution réelle et testable de la gestion et du leadership. Le leadership signifie être un leader, jouer un rôle de leader, prendre des responsabilités, agir et être pour le bien de tous. Turil, 1993. Je pense que la question que j'ai choisie pour l'introduction de ce manuel est extrêmement pertinente pour ce que j'ai l'intention de proposer et de présenter à mon lectorat, à savoir 1. Pourquoi est-ce que je m'adresse au personnel du NHS? 2. Pourquoi est-ce que je pense que ce manuel pourrait être utile aux stagiaires des professions du conseil et de la psychothérapie? À la première question, il y a en quelque sorte une réponse double et pourtant simple. J'ai travaillé au sein du NHS en tant que psychothérapeute pour le personnel du NHS et en tant que tel, le personnel du NHS et le NHS en tant qu'organisation sont pour moi ma spécialité, mon groupe de clients. Beaucoup peuvent se demander pourquoi j'insiste sur les employés du NHS qui, bien entendu, sont et doivent être traités comme toutes les autres personnes. Il y a plusieurs raisons à cette insistance. 1. La première raison est que, grâce à des années de pratique, j'ai pu identifier des modèles de travail au sein du NHS en tant qu'organisation. Le chapitre 2, Being Yourself Exercise, Validate, fait spécifiquement référence à ces modèles de travail. Il est également clair pour moi que toutes ces stratégies peuvent être appliquées plus largement, à divers individus et organisations. Mais il est de mon devoir de reconnaître comment de tels modèles et stratégies de travail ont été développés. La deuxième raison est que ce manuel est né de l'amour et a été écrit sous forme d'histoires, de stratégies et d'expériences vécues. Des transcriptions de séances type avec divers patients ont été fournies en tant que récits d'expériences vécues. Toutes les stratégies présentées ont été appliquées en pratique, testées avec des cas réels. Elles ne sont pas destinées à l'interprétation ou proposées à partir d'une position d'autorité, de privilège, de supposition ou d'élitisme. Chaque stratégie a été créée et appliquée avec la seule intention d'apporter aide et soutien. J'espère qu'en le mettant à la disposition d'un public plus large, ce qui a été appris par ma pratique continuera à apporter aide et soutien à d'autres personnes. Un troisième aspect de la raison pour laquelle ce manuel a vu le jour est en rapport avec une note parlementaire récente, Royaume-Uni, sur la santé mentale du personnel du NHS. La note parlementaire indique que le personnel du NHS a connu des niveaux élevés d'épuisement professionnel, d'anxiété et de dépression, généralement appelés « stress lié au travail », avec des résultats de recherche mitigés sur l'impact de la santé mentale pendant l'épidémie de COVID-19. La note parlementaire indique également que soutenir la santé mentale du personnel du NHS est vital pour un système de santé performant et continu, et que le moyen proposé pour assurer des conditions de travail saines est par un leadership efficace et un soutien par les pairs. Wilson et Bunn, 2021. Au moment où ce manuel sera publié, puisque toutes ces stratégies ont été créées avant COVID-19, la pandémie actuelle pourrait se trouver à un stade différent. Cependant, les expériences apprises et ou la pratique appliquée pendant ces périodes sans précédent peuvent être d'une grande pertinence pour les développements futurs au sein de NHS et le développement du leadership dans le NHS. Néanmoins, il n'y a aucune raison de penser que les stratégies proposées et le cas présenté sont conçus pour des périodes sans précédent. Peut-être plus encore pour des aspects socio-économiques et politiques sans précédent de la vie au Royaume-Uni. Le chapitre 5 aborde ces questions en lien avec le Brexit et les éléments COVID-19. La structure du livre est simple et directe et suit la façon dont les stratégies ont été développées et appliquées. Le chapitre 2 présente diverses stratégies, dont l'exercice « Être soi-même », accompagné d'une étude de cas « Choices for Friday at 9 a.m. »« Choix fait un vendredi à 9 h du matin ». Transcription d'une séance avec un patient qui évoque la difficulté de négocier la transition et le changement dans un cadre du NHS. Peut-être que beaucoup de choses ont changé depuis le COVID-19, ou peut-être pas tant que ça. Et c'est exactement ce que les études présentées pourraient mettre en évidence, spécifiquement au sein du NHS et pour le personnel du NHS. Le NHS a-t-il un leadership? Si oui, qui le sait et comment sait-on que c'est le cas? Plus important encore, en menant des entretiens approfondis avec quelques personnes sélectionnées, ces questions sont devenues beaucoup plus pertinentes. Ma pratique réflexive et mon approche de cette épistémologie ont contribué, de manière interprétative, à la façon dont ces expériences ont été abordées, écoutées et explorées. J'ai travaillé au NHS pendant plus de 5 ou 6 ans et cette expérience m'a permis de créer une dynamique d'entretien sûre et sans position de pouvoir. Je n'étais pas employé par le NHS à cette époque et je ne l'ai jamais été. Le NHS, en tant que système et organisation, était plutôt un client. Il s'agissait d'un contrat honorifique, un service public en tant que tel. La proposition de Sandra Harding sur la théorie du point de vue va être appliquée pour comprendre où je me situe par rapport aux connaissances évaluées et aux connaissances contenues dans chacun des chapitres présentés. La théorie de Harding concerne la production de connaissances ou bien une perspective théorique féministe qui soutient que les connaissances sont produites à partir de la position sociale d'une personne. Harding, 1995. Les idées de Harding vont au-delà d'un schéma simpliste tel que celui dont j'ai parlé jusqu'à présent. La théorie de Harding sur le point de vue est une méthodologie épistémologique, une façon de penser à la production de la connaissance, par qui et comment cette connaissance est produite. Dans un ajout intéressant à ses écrits, en 2015, Harding propose l'objectivité et la diversité comme une autre logique de la recherche scientifique. Il est fort possible que la forte objectivité, le concept initial et central de la théorie du point de vue, ait été maintenant remodelé en objectivité du point de vue de la diversité. J'espère que c'est le cas, et j'ai certainement l'intention de faire exactement cela dans ce que je présente. En fait, j'ai l'intention d'aller plus loin et d'indiquer que je peux et que je vais me positionner à la fois dans et hors de la connaissance produite. Je suis convaincue que j'y suis parvenue, en particulier en créant l'exercice de gestion des émotions et la stratégie du temps pour soi et des affirmations positives décrites au chapitre 3, gestion du changement, de l'anxiété et de la dépression. Ma position dans la rédaction de ce chapitre est celle d'un observateur actif. Par conséquent, j'ai utilisé et détaillé des méthodes de recherche phénoménologique, par exemple, le modèle phénoménologique transcendantal développé par Moustakas, 1994, la recherche d'expériences vécues, l'analyse phénoménologique interprétative et une approche méthodologique et critique de psychologie de la communication, de la collecte de données et des questions d'éthique dans la recherche et l'écriture. Feynman, 1997. Un thème récurrent dans tous les aspects de la recherche présentée est une épistémologie critique de la psychologie, y compris mon propre point de vue en décidant d'enquêter sur un tel sujet. Est-il institutionnalisé ou est-il libre du potentiel désir élitiste d'apporter la connaissance et le changement? Quelles sont mes motivations? En tant que chercheur, quelle est ma position, connaissant, ne connaissant pas, ou faisant partie intégrante de la production de connaissances à partir d'une position de différence et désireuse de contribuer à un volet différent de connaissances et de l'analyse? Toutes ces questions sont illustrées dans le chapitre 4, la thérapie de couple et la recherche de solutions grâce aux rencontres thérapeutiques, où j'ai exploré comment diverses associations dans le travail de la thérapie de couple peuvent être interprétées et conceptualisées. De même, diverses questions sur ma situation théorique sont abordées au chapitre 5, en particulier lorsque je discute des aspects de l'évaluation des services et des risques. Ce même chapitre 5 propose également une approche plus large et plus critique de l'accès et communication dans les professions de la psychothérapie et du conseil du point de vue de la législation privée et politique, des principes et de l'assimilation de la pratique des directives de bonne pratique. Tout au long du texte et de la recherche de fond, les perspectives de l'épistémologie féministe, critique combinée à une approche constructiviste sociale, vont être élaborées avec des cas spécifiques et des concepts liés, des lignes directrices et des principes de pratique. Le cadre de la psychothérapie et du conseil va entrer sur un terrain psychosocial lors de la discussion du cas de Brexit et du Covid-19. Le cadre de la psychothérapie et du conseil va entrer sur un terrain psychosocial lors de la discussion du cas de Brexit et du Covid-19 au chapitre 6. De même, pour les lecteurs avertis comme pour les novices, je vais théoriser et interpréter le contexte du NHS en tant que système de service public, comportement et conduite, plutôt que de mesurer l'efficacité du leadership. C'est là une lecture correcte et une mise en avant voulue. J'étais, et je suis toujours, plus intéressé par le comportement compatissant du leadership qui peut être mis en action et qui est mis en œuvre. À divers endroits du texte, une approche socio-constructivitiste du leadership peut être remise en question en tant que proposition, et j'espère régler ce problème en présentant un argument solide en faveur de l'engagement à la fois de la perspective socio-constructivitiste et de l'auto-analyse lors de l'examen des arguments en faveur du Brexit et du climat sociopolitique et économique de Covid-19. Une perspective socio-constructivitiste étendue et plus élaborée est inclue dans le chapitre 7, lorsque je présente le cas du blog d'un thérapeute et l'analyse de « L'apprentissage reste avec moi ». Un examen parallèle et similaire est détaillé en rendant accessibles les transcriptions d'échantillons de sessions de mon travail avec le personnel du NHS. Nous pensons que le NHS peut et pourrait être considéré comme un contexte d'apprentissage pour le développement potentiel du leadership et peut très probablement être conceptualisé comme tel. Existe-t-il des compétences de leadership et ou des programmes de développement du leadership qui traitent de telles compétences, particulièrement pertinentes pour les périodes de transition et les changements au sein de la structure de chaque département ou de chaque service? Lorsque les niveaux de stress de l'ensemble du personnel peuvent fluctuer avec des niveaux de stress potentiellement élevés pour toutes les personnes concernées, par exemple, le Covid-19 comme étape de transition, comment ces compétences sont-elles testées? Toutes ces questions sont abordées dans les stratégies proposées et en tant qu'aspect de la pratique réflexive dans les derniers chapitres, le chapitre 8, pratique réflexive dans les professions de la psychothérapie et du conseil. Ce manuel envisage des formes qualitatives d'analyse des données par le biais d'études de cas et de transcriptions et en tant que tel, tout le matériel de cas est, à ce moment-là, considéré comme des grappes de connaissances ou d'idées sur la façon dont les stratégies et l'auto-assistance en action peuvent et sont informées par les récits et les expériences de vie vécues. Les stratégies proposées ici peuvent potentiellement informer les pratiques de leadership à plus grande échelle ou, au moins, servir de base de connaissances et de preuves des expériences vécues. J'espère avoir été en mesure de présenter les modèles identifiés et les données collationnées de manière significative. Que les données recueillies, c'est-à-dire les transcriptions et les études de cas, peuvent directement informer les plans de développement, les projets et la mise en œuvre du changement et de l'innovation pour le NHS en général ou pour les personnes employées dans le NHS et leur domaine auto-identifié de besoin ou de soutien. L'identité du leadership au sein du NHS va être remise en question, mais pas nécessairement celle des leaders individuels. les questions sur la façon dont les deux peuvent être séparés demeurent. Un dernier aspect à considérer est celui de l'examen des systèmes de soutien existants et de l'accès au soutien au sein du NHS ou au sein d'une profession de psychothérapeute et ou de conseiller. Bien que cela ne soit pas détaillé dans ce manuel, je suis fermement convaincue qu'il existe des associations significatives entre le rôle du travail dans le NHS et le début d'une carrière en tant que psychothérapeute et ou conseiller. Je pense que les similitudes concernent les systèmes de soutien, la formation et l'engagement dans un rôle de soutien où la vie des autres dépend de la prise de ce risque et l'endossement de ce rôle. Peut-être qu'une autre similitude réside dans le fait qu'il s'agit de l'identité d'une personne et des défis qu'elle doit relever pour reconnaître que la résilience est le statu quo. Les systèmes de soutien sont essentiels pour négocier les étapes de transition dans la vie d'une personne. Ces systèmes de soutien réussissent-ils à promouvoir la reconnaissance des défis et des difficultés qui sont potentiellement prévalents au niveau national, plutôt qu'à des niveaux régionaux spécifiques ou même à des niveaux choisis au hasard au sein du NHS ? Ce manuel n'a pas cette réponse. Peut-être que cela pourrait être formulé comme une limitation cruciale de ce texte, mais nous pouvons également le considérer comme une proposition pour les prochains écrits sur le même sujet. Et c'est une attitude que j'ai fortement appliquée et que j'applique toujours dans tous mes travaux. Quel est l'apprentissage alors ? Eh bien, j'espère que les lecteurs, après avoir lu ce manuel, seront capables de discerner et de réfléchir à leur propre réponse à cette question.